RCF.
Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro des Forces et des Hommes. Émission spéciale ce soir consacrée aux attaques du Bataclan le 13 novembre 2015. Pour cela, et comme à l'accoutumée, j'ai réuni nos deux chroniqueurs, Jean-Luc Cottard et Thomas Ernaud. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Et dans quelques instants, nous retrouverons la rubrique Ligne de front qui reviendra sur les événements tragiques de ce 13 novembre. Et ce sera avec vous, Thomas. Puis la chronique décapante de Jean-Luc s'intéressera ce soir aux répercussions de ces attentats dans la conduite de nos armées. Et dans cette spéciale, et pour nous accompagner ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Johan Gillet, journaliste et documentariste, auteur d'un film sur les coulisses du ministère de l'Intérieur en 2015 et 2016. Il a vécu de près la crise ce soir-là. Il nous racontera cela.
Des forces et des hommes sur RCF. Un magazine au cœur de l'actualité militaire.
Bonsoir Thomas.
Bonsoir Arnaud. Bonsoir.
Ce soir, 17 novembre, comme je le disais en introduction, nous consacrons notre émission au terrorisme. Et vous allez, pour nos auditeurs, revenir ce soir sur la triste soirée du 13 novembre 2015 et bien sûr de ses conséquences.
Effectivement, ce soir, nous revenons sur la soirée du 13 novembre 2015 où 6 attaques terroristes ont été menées simultanément dans les 10e et 11e arrondissements de Paris ainsi qu'au Stade de France. Le bilan, nous le connaissons, il est élevé. Ce soir-là, 130 Français ont été tués et 352 autres blessés. Des attaques qui ont, dès le lendemain, été revendiquées par Daesh et qui ont amené la France à réadapter son dispositif de défense et de sécurité.
Alors, avant de revenir sur cette soirée sanglante, disons-le Thomas, en cette fin d'année 2015, les autorités politiques, comme les services de renseignement et de sécurité intérieure, s'attendaient déjà à de nouvelles attaques.
Depuis que la France s'est engagée en Afghanistan en 2001, même si cela n'est pas la seule raison, elle est ciblée par le terrorisme mondial, ou plutôt le terrorisme islamiste. L'opération Serval, puis Barkhane, déclenchée au Sahel par le président François Hollande, tant que la décision de participer à la coalition contre l'État islamique en Irak et en Syrie, ont accentué ce risque.
Alors, les signes étaient forts, semble-t-il, et il y avait eu un précédent déjà.
Oui, en janvier de la même année, avait eu lieu, et tout le monde s'en souvient, les attentats contre la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo et la prise de l'hypermarché Kasher. Ils avaient coûté la vie à 17 personnes. À la suite de cela, la France avait déjà renforcé son dispositif de sécurité et répondu par plusieurs bombardements au Moyen-Orient, notamment sur des camps d'entraînement de l'État islamique. Et si plusieurs projets d'attentats ont été avortés par nos forces de sécurité cette année 2015, le terrorisme islamiste est finalement arrivé à ses fins ce soir tragique du 13 novembre.
Alors, que se passe-t-il ce soir-là véritablement ?
Ce soir du 13 novembre 2015, selon le procureur de Paris, pas moins de 3 équipes de terroristes, tous bardés d'explosifs et armés de Kalachnikov, entrent en action. À 21h18, une première explosion survient au Stade de France, où se joue le match entre la France et l'Allemagne, auquel assiste notamment le président de la République, François Hollande. Un kamikaze vient de se faire sauter, suivi d'un deuxième, puis d'un troisième. Ce commando était composé de 2 Irakiens, originaires de Mossoul, et d'un Français. Ils étaient tous âgés d'une vingtaine d'années.
Et ensuite, c'est l'escalade. Plusieurs fusillades se font entendre ailleurs dans Paris.
À 21h27, Arnaud, exactement, les premiers coups de feu sont lâchés dans le 10e et le 11e arrondissement de Paris. Les lieux choisis par les assaillants sont la voie publique, les terrasses de café, les restaurants. Le bilan s'alourdit et à cette heure-là, il y a déjà 56 victimes. Mais la cible privilégiée, ou plutôt la cible finale, elle est située au 50 boulevard Voltaire.
50 boulevard Voltaire, qui est l'adresse précise du Bataclan.
Ce soir-là, se joue un concert de rock avec un groupe, les Eagles of Death Metal, qui revient tout juste d'une tournée en Israël. Il est 21h40 et ce troisième commando, composé de 3 personnes, va réaliser ce que l'on peut qualifier de massacre. Il abat ses premières victimes à l'extérieur du bâtiment avant de pénétrer la salle au cri d'Allahu Akbar. Sur place, 2 commissaires de police interviennent et arrivent à tuer un des terroristes. Mais pris sous le feu des assaillants, ils sont obligés de se mettre en retrait. Ils doivent attendre l'arrivée de la brigade de recherche et d'intervention, la BRI et du RAID. Pendant ce temps, les 2 terroristes se sont retranchés dans une pièce au premier étage, emmenant avec eux 20 otages. Après, d'après des témoins, ils auraient scandé « C'est pour tout le mal fait par Hollande, aux musulmans, partout dans le monde ».
Thomas, comment se passe l'intervention des unités spéciales de la police ?
À 22h15, une 60aine de membres de la BRI arrivent sur place. 5 minutes plus tard, appuyés par 10 homologues du RAID, ils sécurisent le bas de la salle. Puis vers 23h, une 40aine de membres de la BRI, formant 2 colonnes, montent au premier étage. 20 otages étaient présents avec les 2 terroristes, des négociations sont alors entamées. Pendant ce temps, un poste de commandement s'installe à proximité du Bataclan. Au terme de tractations infructueuses avec des terroristes déterminés à mourir, L'assaut est lancé à minuit 18. Protégée par un bouclier Ramsès, de gilets lourds et de casques à visière blindée, la BRI intervient et tue les deux hommes, sans qu'il n'y ait de nouvelles victimes.
Après ce résultat catastrophique, quelles sont les conséquences de ces attentats ?
Arnaud, elles sont multiples, et elles commencent par des interrogations. La première est l'usage de la force. Les policiers ne peuvent utiliser leurs armes que dans le cas de la légitime défense, sous peine d'être inquiétés par la justice. Un problème que connaissent également les forces de l'opération Sentinelle. Un deuxième point concerne la présence policière dans Paris. Elle est réduite alors à la seule BAC de nuit et à quelques patrouilles urbaines. De plus, un troisième point se pose l'interrogation de l'armement. Les policiers sont seulement équipés de leurs armes de service, c'est-à-dire d'un pistolet qui est une arme légère. Or, face à des armes plus lourdes, il n'est pas d'un grand secours. On se souvient qu'il avait été insuffisant pour le policier Ahmed Merabé qui avait été abattu froidement par les frères Kouachi en janvier. Enfin, et c'est le dernier point, certaines voix s'élèvent contre la faible interopérabilité des forces spéciales de l'intérieur qui semble s'ignorer. En 2015, aucun exercice massif n'avait été mené depuis décembre 2008, date à laquelle Michel Alliomari, alors ministre de l'Intérieur, avait demandé que le RAID et le GIGN testent leurs procédures dans des conditions réelles.
Ok, du côté police, mais pour nos armées, quelles décisions ont été prises suite à cet attentat ?
Pour nos armées, l'impact est resté relativement limité. Nos forces étaient déjà largement engagées au Sahel et au Levant, et l'armée française dispose de peu de réserves, que ce soit en troupes conventionnelles ou en forces spéciales. Aussi, depuis le début de l'année 2018, plus de 100 tonnes de bombes avaient déjà été larguées par l'armée de l'air dans le cadre de l'opération Chamal. Et ne nous trompons pas, la France avait déjà déployé 6 Mirage 2000 et 6 Rafales et elle avait atteint son pic d'activité.
Nous n'avions donc, si je vous entends bien, aucune marge de manœuvre.
Si, il en restait une principalement, celle de l'envoi du porte-avions Charles de Gaulle. Le président François Hollande a donc pris naturellement la décision de faire appareiller le porte-avions français le 18 novembre 2015, afin de l'engager en Méditerranée orientale dans la guerre contre Daesh.
Quel retour d'expérience peut-on tirer, Thomas, de cette situation ?
La vraie leçon, finalement, c'est l'ignorance. L'ignorance des différents gouvernements qui se sont succédés depuis la chute du mur de Berlin et qui, pendant trop d'années, ont réduit à une goutte d'eau le budget consacré à la défense et à la sécurité de la France et des Français. Or, on le sait depuis Sénèque, et bien avant encore, qui veut la paix prépare la guerre. Autrement dit, pour pouvoir faire, pour pouvoir agir, pour pouvoir combattre, encore faut-il avoir la volonté et se donner les moyens d'être plus tôt que de paraître.
Merci Thomas.
Des forces et des hommes sur RCF.
Bonjour Jean-Luc, ou bonsoir pardon.
Bonsoir Arnaud.
Difficile de passer après Thomas ce soir.
Hein. Ça fait réfléchir hein.
Cela fait déjà 5 ans hein, que les attentats dits du Bataclan ont eu lieu. Et pourriez-vous ce soir, Jean-Luc, nous parler des conséquences de la participation à la lutte antiterroriste sur le travail des militaires ?
Ça a dû agir. Je crois, Arnaud, que vous avez raison de parler des, j'insiste sur des attentats du Bataclan, hein, comme
oui.
Thomas nous l'a dit tout à l'heure.
Oui, il ne faut pas oublier que 3 cibles ont été visées simultanément ce soir-là.
Oui, la participation des militaires à la lutte antiterroriste ne date pas de 2015, elle remonte à 1995, avec la création du plan Vigipirate, qui était une forme de concrétisation visible de ce qu'on appelle la posture permanente de sûreté du territoire national.
Pourquoi visible ?
Visible parce que il existe des moyens que le grand public ne voit pas, comme ceux de l'armée de l'air, par exemple. De temps en temps, à Tours, on entend des avions qui décollent très très fort et très très vite.
Des rafales ou des 2000,
Des rafales ou des 2000, eh bien ça, c'est la posture permanente de l'armée de l'air. La marine, de son côté, possède elle aussi des bâtiments, des sémaphores qui surveillent les côtes. Ce qui est intéressant avec 2015, c'est qu'il y a un tournant autant quantitatif que qualitatif qui a été pris.
Oui, alors... 2015, c'est la création de l'opération Sentinelle.
Tout à fait, Arnaud. Au lendemain du 7 janvier 2015, c'est-à-dire pas au lendemain du Bataclan, personne ne sait encore ce qui va se passer. S'il va y avoir de nouvelles attaques, encore, combien, où, etc., etc. Le président de la République décide alors de rassurer la population et de montrer qu'il a de quoi agir.
Réaction rapide, du jour au lendemain, 10 000 hommes sont sur pied, hein, si je ne m'abuse.
Exactement.
Et c'est la guerre sur le théâtre national, on n'est plus en opération extérieure.
Alors c'est plus l'opération extérieure, et au départ on met les soldats devant les écoles, on a 10 000 soldats qui du jour au lendemain sur 3 jours montent sur Paris et un petit peu sur des lieux sensibles. Les soldats sont mis devant les écoles, les lieux de culte, et très vite l'exécutif se rend compte que c'est sous-employer les militaires, et que en fait... En faisant ça, on augmente les cibles potentielles.
C'est intéressant, oui.
Et donc, pour augmenter l'incertitude, les militaires proposent de ne pas avoir uniquement des gardes statiques, mais surtout des patrouilles mobiles et aléatoires de façon à renforcer l'incertitude.
Ok, ne bouger au lieu de rester statique. Mais est-ce efficace ?
Alors, est-ce que c'est efficace ? On n'a pas la preuve. On n'a pas la preuve matériellement. Mais du point de vue politique, du point de vue de l'affichage, oui, indéniablement, puisque quand vous regardez un peu ce qui se passe dans les médias lorsqu'on parle de lutte antiterroriste, l'illustration, ce sont des militaires de sentinelles qui patrouillent.
Toujours de dos, oui, c'est vrai que c'est
toujours
les photos.
Toujours de dos ou de profil. Mais voilà l'image qui reste.
Alors d'ailleurs, à l'occasion du Bataclan, les militaires présents n'ont pas été très utiles. Hein. Ça a d'ailleurs créé une sacrée controverse à l'époque. Ils auraient pu rentrer dans la salle de spectacle, mais pourquoi ne l'ont-ils pas fait ?
Ah, on trouve là les limites. Mais aussi peut-être la force du dispositif de l'époque, je ne sais pas. Au Bataclan, les militaires sont arrivés très vite sur les lieux, avec la BAC 94. Mais faute de sollicitation de la part de la préfecture de Paris et du commissaire local, ben, ils n'avaient pas le droit d'intervenir. Quand bien même ils auraient été requis, leur efficacité aurait certainement été aléatoire, parce que combattre dans un local clos où se trouvent des otages, c'est un métier. Je vous invite d'ailleurs à lire le rapport de la Commission de la Défense nationale sur ce sujet.
Oui, je l'ai lu d'ailleurs. Alors justement, pas le droit d'intervenir, ce qui peut faire bondir nos auditeurs ce soir. Pourquoi ?
Parce que pour intervenir, un militaire en droit, à l'époque, doit être sollicité par l'autorité civile. C'est elle qui commande sur le territoire national. Sauf que dans une situation de légitime défense pour se protéger ou pour protéger quelqu'un qui est menacé. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs à Strasbourg en décembre 2018. Entre-temps, la législation avait légèrement évolué.
Oui.
Où la patrouille du 152e régiment d'infanterie a poursuivi et blessé le terroriste en tirant je ne sais plus combien de cartouches,
oui,
sans blesser aucun des passants qui étaient présents. En fait, il y a une discussion entre le préfet et le général sur le pourquoi et le comment de l'emploi du militaire. Et c'est ce que nous avons vu rapidement le mois dernier avec le général Baldi.
Ah oui, dans notre émission, c'est vrai. Et je suppose que Sentinelle a perturbé l'avis des armées, parce que prendre 10 000 hommes comme ça d'un seul coup, ça...
Indéniablement, oui, ça Arnaud. Oui. Parce que brusquement, tout ce qui était prévu en termes d'entraînement, de relève des unités en opération, est brusquement bouleversé. Le 7 janvier 2015... Pour la seule région Île-de-France, les effectifs à gérer, à nourrir et à héberger sont passés de 450 à 6500. D'un autre côté, avant le 7 janvier 2015, un soldat passait en moyenne 15% de son temps en opération extérieure et 5% pour Vigipirate. Après le 7 janvier, toujours 15% en opération extérieure et 40 à 50% en Vigipirate ou opération intérieure. Ces chiffres impliquent donc une baisse de l'entraînement et une augmentation de la fatigue des personnels. Donc ça a des conséquences sur les opérations.
Et oui, et sur les ressources humaines de l'armée de terre, parce que j'ai récemment appris qu'il y avait eu pas mal d'émissions de jeunes militaires suite à ces missions spécifiques. Alors d'où la déflation des effectifs, bonne nouvelle ou non alors ?
Alors plutôt la fin de la déflation des effectifs, Arnaud. Alors, bonne nouvelle, oui et non. Bonne nouvelle en ce qui concerne la fin de la tendance baissière des effectifs initiée depuis la fin des années 1980. Difficulté de l'autre côté, parce qu'il faut d'abord trouver de la ressource pour recruter 11 000 personnes.
Oui.
Ensuite, parce qu'il faut des cadres pour former ces recrues, et qu'il faut les héberger, et qu'il faut de quoi les équiper. En fait, 2015, c'est un point d'inflexion de politique toujours délicat à gérer. Fin 2017, c'est-à-dire 2 ans après les attentats, le général chef d'état-major de l'armée de terre espérait avoir un retour à la normale pour l'été 2018, 6 mois plus tard.
Et est-ce qu'il a réussi ?
Oui, visiblement, et son successeur, s'il est visiblement toujours vigilant sur ces sujets, travaille beaucoup sur la préparation d'un conflit d'une taille supérieure et majeure.
Conflit majeur à l'intérieur ?
Non, tous azimuts.
Tous azimuts. Donc Sentinelle a perturbé, en vous écoutant, la vie de l'armée de terre.
Oui, indéniablement, mais c'est le propre des militaires de s'adapter aux situations difficiles. S'il n'y a pas lieu de s'en émouvoir, je crois qu'il est bon de souligner en revanche les efforts réalisés, leur efficacité, mais aussi les délais pour réaliser tout ça.
Bien, merci Jean-Luc pour ce point rapide sur Sentinelle. Alors, avant de vous quitter, je vois que vous avez un livre devant vous, comme d'habitude d'ailleurs.
Hein. Ah oui, oui. Oui, oui, Arnaud, et c'est un livre que je vous recommande particulièrement.
Bah, quand je le vois, c'est un sacré pavé quand même. Hein.
Oui, 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 c'est un pavé, mais alors c'est un pavé qui parle de bataille, paru chez Belin. Un très bel ouvrage, comme vous pouvez le constater, qui se propose de déconstruire des mythes historiques liés aux grandes batailles. Cet ouvrage collectif et européen, dirigé par Isabelle Davion et Béatrice Heusser, choisit 19 batailles et regarde comment elles sont devenues des événements majeurs dans la conscience collective d'une nation. Il ne s'agit pas d'en étudier la bataille en elle-même, mais d'étudier comment elles sont devenues des symboles.
Un exemple de bataille.
Bah, la bataille de Poitiers.
Ah, laquelle? Alors, parce qu'il y en avait plusieurs. Hein.
Bah, celle de 732.
Ah, Charles Martel.
Avec Charles Martel.
Tiens.
Qui d'ailleurs illustre la couverture.
Il est joueur ce soir.
Celle pour laquelle on ne sait presque rien. Même pas le lieu qui pourrait être à côté de Tours.
Oui, à Ballon-Viré.
Oui. Et Christophe Motel, l'historien allemand, qui rédige le papier, donne les sources et suit l'évolution des interprétations, voire les récupérations jusqu'à aujourd'hui.
Ce livre vous a plu apparemment.
Ah oui, c'est un ouvrage intelligent qui montre l'intérêt des études historiques de façon originale. Un regret tout de même.
Vous avez un regret, mais lequel? Vous avez pas de regret.
Arnaud, on ne parle pas de la bataille du Belvédère ni du général de Montsabert.
Ah, voilà.
Mais rassurez-vous Arnaud, je ferai de ce livre néanmoins une recension pleine de louanges pour la revue Inflexion.
Ah, il avait bien joué le Jean-Luc Sansoir. J'ai cru que vous n'alliez pas réussir à nous parler du général Montsabert ni de la revue Inflexion. Mais en tout cas, merci pour cette magnifique rubrique, Jean-Luc.
Les forces et les hommes sur RCF. L'actualité militaire et de la sécurité intérieure sous toutes ses formes. Arnaud Roy.
Allez, c'est bientôt la fin. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve avec notre invité juste après Charlie Puth et son Summer Feelings.
RCF à Tours 100.4, à Blois 96.4.
Des forces et des hommes sur RCF. Arnaud Roy.
Si vous nous rejoignez, vous êtes avec nous jusqu'à 19h55 dans Des forces et des hommes, émission spéciale ce soir consacrée au Bataclan 5 ans après. Bonsoir Johan Gillet.
Bonsoir Arnaud Roy.
Il est 21h30 ce soir du vendredi 13 novembre 2015. Des messages commencent à circuler entre les journalistes. Il semble qu'il se passe quelque chose rue Alibert à Paris, dans l'est de la capitale. Une heure plus tard, Paris sombre dans l'horreur. Le terrorisme vient de toucher des centaines d'innocents à des terrasses de deux cafés et dans la mythique salle de concert du Bataclan, boulevard Voltaire. Alors j'ai une question, Johan Gillet. Et vous, à 21h30, vous étiez où ce soir-là?
Eh bien, si mes souvenirs sont exacts, et ils le sont obligatoirement parce que ce sont des moments qu'on n'oublie pas, je me retrouvais dans mon appartement à Boulogne-Billancourt. Il était tard, donc j'avais fini de travailler. J'étais avec ma femme et tout à coup, j'ai une alerte, enfin j'ai plusieurs alertes sur mon téléphone, des alertes donc officielles, des médias bien sûr, mais aussi des alertes, on va dire, de la rédaction de ma boîte de production de l'époque, Images et Compagnie.
Alors pour nos auditeurs, je rappelle qu'à ce moment-là, vous êtes en train de tourner avec Serge Moati un documentaire sur le ministère de l'Intérieur.
Alors en fait, depuis 2015 et même depuis 2014, en fait, on a commencé à tourner des documentaires sur effectivement un ministère au cœur des crises, avant même Charlie Hebdo et donc de fait avant même le 13 novembre. Et justement, pour aller au bout de l'anecdote que vous me demandez de vous raconter, qui est une anecdote au relent tragique un petit peu ce soir-là, effectivement, je pense tout de suite à Serge Moati, avec qui nous sommes en train de tourner, et je pense en fait à son fils, Félix Moati, qui est un habitué des bars du 11e arrondissement et qui représente pour moi cette jeunesse, hein, finalement, qui sort dans ces bars. Il en est pour moi le symbole, et tout de suite je l'appelle et je lui demande « comment vas-tu ?» Et il me répond « écoute, j'ai l'impression que ça canarde de partout ». Nous nous sommes mis à l'abri. Voilà les premiers mots, mon premier rapport, on va dire, à cette tuerie de cette soirée du 13 novembre.
Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez ressentir? Quel réflexe vous allez... Est-ce que c'est le citoyen qui va réagir? C'est le mari, c'est le journaliste? Parce que là, se passe une crise majeure.
Eh bien, quand en fait tout se mélange, pour être très honnête, les réflexes se mélangent. Vous avez le réflexe du conjoint, parce que je n'étais pas encore marié à ma femme à ce moment-là. Je la regarde, je lui dis écoute, apparemment ça tire de partout. Regarde, on allume la télé. Évidemment, cette nuit-là, j'ai regardé la télé toute la nuit. Hein, je n'ai pas dormi. Ma femme était sidérée, un état de sidération absolue, avec cette idée d'aller se réfugier un petit peu, si vous voulez, quelque part, dans le seul endroit qui est un vrai refuge, c'est-à-dire la chambre, l'endroit où finalement on a l'impression que ce monde de fous n'existe pas.
Vous êtes à Bologne.
On est à Boulogne-Billancourt, mais vous savez, on a une proximité à ce moment-là avec Paris. Alors, elle est géographique, bien sûr, puisque la frontière entre Paris et Boulogne, évidemment, ne se voit pas. Mais surtout, on sait qu'il y a des terroristes dans la nature. C'est ça, en fait, qu'on comprend à ce moment-là, dans la nature. C'est-à-dire qu'ils sont capables de bouger très vite. C'est ce qu'on comprend. Et puis, on a surtout, nous, des personnes qui, au ministère de l'Intérieur, nous informent. On est en relation directe avec, à l'époque, par exemple, Benjamin Ménard, qui était le conseiller en communication de Bernard Cazeneuve, et qui nous explique un petit peu ce qui est en train de se passer. Et là, vous essayez de mettre de l'ordre dans votre tête, vous dites, mais attends, si je comprends bien, c'est en train, en gros, de tirer dans tous les coins. Ils sont en train de tirer dans une salle au Bataclan. Alors, à 21h40, je ne me souviens même plus, si vous voulez, après coup, on refait l'histoire. Mais je ne sais même plus ce que je découvre à ce moment-là. Ce que je découvre, c'est qu'en gros, on a un ministère qui va être confronté à quelque chose qui est de l'ordre de la guerre, presque de l'indicible. Enfin, c'est impossible à définir ce qui
vous
se passe.
Vous prenez quelle décision ce soir-là? Est-ce que vous partez sur les lieux? Qu'est-ce que vous allez faire?
Non. J'appelle Serge Moati. Je lui dis, Serge, on va se remettre au travail. Parce qu'il y a quelque chose. C'était difficile de dire ce mot encore pire. Parce que, évidemment, ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. Mais encore pire parce que j'ai envie de dire, il n'y avait même pas d'objectif précis. À Charlie Hebdo, ces fous de terroristes avaient un objectif, c'était faire taire la presse qui dessine, satirique, voilà. Qui dessine, qui dérange leur manière de croire en leur Dieu. Et j'ai envie de dire, quelque part, ils combattaient un ennemi identifié. Là, ce n'était même pas cela. Le but, c'était d'effrayer, de terroriser, de mettre en état de sidération un pays tout entier. Et de tuer peu importe qui. Hein, à mon avis, un bon nombre d'ailleurs aussi de leur...
Des gens
citoyens, enfin, oui, voilà. comment on dit, de personnes de la même religion qu'eux, a priori, croient-ils. Ils ont tué des musulmans, ces gens-là, quand même. Hein. Mais j'ai du mal à trouver le mot parce que je n'arrive pas à relier le monde musulman à ces gens-là, en fait. C'est impossible, ça n'a rien à voir. On est dans quelque chose qui est ailleurs, qui se trouve ailleurs, dans une pure folie. Absolument.
Quelle décision vous allez prendre en tant que journaliste? Là, vous êtes quand même au cœur de la crise. Est-ce que vous rappelez donc le conseiller en communication de Cazeneuve à l'époque,
Benjamin Ménard, oui.
Benjamin Ménard, oui, que vous m'avez présenté d'ailleurs, je me souviens.
Absolument.
Vous allez prendre quelle décision? Parce que là c'est tout se bouscule, hein, c'est ce que vous disiez.
On prend la décision pour l'instant, à ce moment-là, de regarder les chaînes d'information en continu et de regarder comment les choses sont traitées, ce qui s'y passe. On est le vendredi, me semble-t-il, hein, le vendredi 13 novembre, et arrive le week-end où je décide d'être citoyen. C'est-à-dire que je me laisse du temps, je retrouve une amie qui est journaliste également, Wendy Bouchard, et on va sur les lieux et on se recueille. On avait besoin. Mmh. Et là, d'ailleurs, c'est très étonnant parce que des jeunes s'amusent à faire péter un pétard, pas très loin, et alors tout le monde se met en alerte, tout le monde s'en va. Enfin, vous savez, ce genre d'idioties qui sont faites dans ces moments-là, absolument, mais qui finalement sèment une terreur supplémentaire et qui fait qu'on n'a pas le temps de se recueillir, en fait, et qu'on est effrayé. On va se réfugier donc chez la sœur de Wendy Bouchard. Et là, je me dis, bon, une fois sorti de ce week-end, il faut qu'on prenne ça en main, c'est-à-dire qu'il faut qu'on prolonge le travail que nous avons initié en 2014, juste avant les attentats de Charlie Hebdo, et on se dit on va reprendre la caméra. Qu'est-ce qu'on fait? Alors d'abord, je me rends au congrès de Versailles qui se tient le lundi suivant, où François Hollande convoque effectivement le Parlement pour expliquer que nous sommes en guerre.
Assemblée nationale et Sénat pour les
éditeurs. Absolument, exactement. Et qu'un certain nombre de mesures vont être prises au nom, effectivement, de cette urgence nationale. Et c'est le moment de l'unité nationale, un instant, un jour, un instant vraiment éphémère, l'unité nationale avec effectivement une standing ovation pour François Hollande pour montrer la solidarité de la nation tout entière. À ce moment-là, on se dit... quelque chose va se jouer parce que l'unité nationale ne va pas durer, les choses vont s'effriter et puis surtout il va y avoir des débats sur la question des libertés individuelles puisque à partir du moment où l'état d'urgence se met en place, forcément des milliers de questions et de fantasmes se mettent en place également.
Serge Moati, comment est-il à ce moment-là voilà, il produit ce film, il est aussi réalisateur avec vous. Lui qui a l'habitude de suivre les politiques, là il va suivre une crise quand même assez exceptionnelle. Comment il réagit ?
Serge Moati est un homme très surprenant parce qu'il a cette capacité à vivre le moment comme si c'était un instant d'histoire. C'est-à-dire qu'il arrive à se plonger, c'est sa manière de se protéger, si vous voulez, de l'émotion, à Serge Moati. C'est-à-dire qu'il est quelque part dans une dimension cinématographique. Je ne voudrais pas que les auditeurs s'offusquent de cela. Cinématographique, ça ne veut pas dire qu'il prend du plaisir à cela. Ça veut dire que d'un coup, la chose est tellement extraordinaire, entre guillemets, qu'il se rend compte qu'on est plongé dans un moment qui va terriblement compter pour notre pays. Et c'est là le cinéaste, la personne qui capte, qui saisit, et qui saisit dans le détail les choses. On parle de détail, vous savez, quand on a commencé effectivement à se mettre de nouveau en action, à rappuyer sur REC dans la caméra, ce qu'on a commencé par filmer, ce sont les toutes petites choses, c'est-à-dire les gens qui mettent des dossiers sur la table au sein du ministère de l'Intérieur, les petits gestes. Vous savez qu'il y a une image...
qui ont leur grande importance.
Qui ont une très très grande importance. Il y a une image qui nous est tous communément restée en tête. C'est celle du service de nettoyage du ministère de l'Intérieur, où ces femmes, fortes, courageuses, sachant que le ministère et évidemment tout le cabinet autour, et puis toutes les équipes étaient en ébullition, d'elles-mêmes sont restées pour nettoyer. Et à un moment, quelqu'un du ministère se retourne vers elle, je crois que c'est Gabriel Kunde, qui était le chef de cabinet de Bernard Cazeneuve, et il lui dit « mais vous pouvez rentrer, vous savez ». Et elle lui répond « non, c'est ma manière de participer à l'effort collectif ».
Oh. Ça, c'est le symbole de l'unité nationale.
Eh bien, ça, c'est l'unité nationale absolue au-delà des postures. Ce sont des gens qui ne trichent pas, qui n'ont pas de conquête personnelle. Et c'est la manière, effectivement, de mettre la pierre à l'édifice. Et c'est là où vous sentez, finalement, que c'est le pays qui a été frappé. C'est le pays.
Yann, je vous propose une nouvelle petite pause musicale et on revient sur ces événements tragiques du 13 novembre. On écoute Deluxe et son titre « Seize Your Day ».
Si, c'est une chanson très détendue. J'aime bien quand de temps en temps... et le petit sourire en coin et quand vous savez vous moquez un petit peu de vous.
You cry. What do you mean? You know, Sue.
des forces et des hommes
sur RCF. Des forces et des hommes.
Arnaud Roy.
Vous êtes sur RCF dans Des forces et des hommes. Je suis toujours en compagnie de notre chroniqueur Jean-Luc Cottard et Thomas Ernaud et de notre invité, le journaliste Johan Gillet. Johan, vous parliez de ces petits détails qui ont leur importance. Vous parliez de ces femmes de ménage qui ont continué à travailler malgré la crise, justement, pour participer à cet effort, à cette unité nationale après ces attaques. Qu'est-ce qu'il y avait encore de marquant sur cette crise-là que vous allez vivre?
Bah, vous savez, ce qui était très intéressant, et je voudrais poursuivre effectivement sur cette anecdote de la personne qui était chargée de faire le ménage au sein du ministère de l'Intérieur, c'est ce huis clos du ministère de l'Intérieur où effectivement vous croisez de toutes les cultures en fait, et à toutes les échelles sociales. Et effectivement, ce soir-là, sans, j'ai envie de dire, s'inventer sa propre histoire, hein, son propre roman national, je peux vous assurer qu'il était éclatant, si je puis dire, que l'unité était là, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de confession, il n'y avait plus de communauté. On voyait qu'il y avait des gens qui venaient de cultures, de religions différentes, mais là, il n'y avait plus que des Français ce soir-là. Et ça, c'était absolument fabuleux.
Alors justement, vous parlez de culture, vous parlez de métier, vous parlez de Français, vous parlez des autorités. Jean-Luc, je crois que vous avez une question, justement.
Oui, comment est-ce que vous avez vécu dans la salle de crise le rôle de chacun? Est-ce que chacun est resté à sa place, ou est-ce que, étant donné le stress ambiant, les autorités n'ont pas eu tendance à venir s'immiscer dans les prises de décision du niveau subordonné, que ce soit au niveau du préfet ou au niveau du commissaire qui était en train d'agir.
Ou même du ministre, d'ailleurs.
Oui. Alors, je vous répondrai en qualité d'observateur et non pas d'expert, bien sûr.
C'est ce qui nous intéresse.
En tant qu'observateur, il y avait eu l'expérience des attentats de janvier 2015 de Charlie Hebdo. Et là, ce ministère a beaucoup appris, finalement, de cette expérience. Il a beaucoup appris, et surtout on avait un Bernard Cazeneuve extrêmement rigoureux. C'est un homme d'une précision extrême. D'abord, vous l'entendez à travers les mots qu'il emploie. C'était des mots extrêmement républicains, qui avaient vocation ni à amplifier le phénomène, nous n'avions pas besoin de ça, ni à minimiser, et surtout à faire en sorte que tout le monde puisse se parler et travailler en bonne intelligence.
C'est
je l'explique. Absolument. Mais vous savez que, alors est-ce qu'on peut parler de guerre des polices, tout cela, on est un peu dans les films, mais il y a effectivement des compétitions qui peuvent exister à travers les différents corps, vous le savez mieux que moi, et Bernard Cazeneuve, en janvier 2015, a dit « De toute façon, on ne luttera pas contre le terrorisme, surtout dans une journée aussi sanglante que celle du 7 janvier, si on ne se met pas tous autour de la table. » Et donc, il a fait en sorte qu'avant même que toute action soit prise, que tout le monde, tous les responsables, se mettent autour de la table et se parlent. Certainement pas à distance, etc. Il a réuni tout le monde. Et ce n'est qu'à partir du moment où il a eu la certitude que tout le monde était en position d'être coordonné et de ne plus être du tout en compétition, que les actions ont commencé à être menées. C'est-à-dire qu'il s'est comporté en véritable chef, entre guillemets, en organisateur, pour pouvoir ensuite, effectivement, faire confiance pour que chacune et chacun puisse être véritablement à son poste sans être perturbé, si je puis dire.
Pour faire un parallèle, le 7 janvier, donc Bernard Cazeneuve réunit toutes les hautes autorités policières et gendarmesques pour qu'il y ait un travail collectif.
Absolument.
En son temps, donc au mois de novembre, quelques mois plus tard, le président va réunir tous les parlementaires en congrès. Jean-Luc, vous aviez une question à ce sujet, justement.
Oui, tout à l'heure, vous avez parlé de l'ambiance du congrès, l'unanimité nationale. Et vous avez dit en particulier qu'on a, avec le vote de la loi d'urgence, vous avez pensé aux libertés individuelles.
Oui.
Comment est-ce que vous avez pu penser à ça à ce moment-là?
Parce que il y a, si vous voulez, l'affichage de cette unité et de cette unité nationale au sein de l'hémicycle. Et puis il y a ensuite les pauses, hein, c'est-à-dire que le président de la République s'est exprimé et puis après il s'agissait de débattre. Hein. Et bien dans les couloirs, vous tendiez l'oreille et vous voyez, alors me semble-t-il, je crois que c'était Monsieur Chassaigne du Parti communiste et puis plein d'autres personnes qui commençaient à se dire « Oui, mais comment est-ce qu'on va faire ?» Parce que on doit donner notre feu vert, si je puis dire, tellement rapidement. On doit prendre des décisions tellement rapidement qu'en vérité, comment allons-nous faire pour nous assurer qu'il y aura bien des garde-fous? Donc tout le monde était prêt finalement à donner, si je puis dire, ce feu vert pour pouvoir agir, à donner son consentement, mais tout le monde était en vérité inquiet et ça murmurait et ça chuchotait de partout. Nous n'avions pas de caméra le lundi. Moi, je suis venu de manière spontanée, je me suis fait accréditer à la dernière minute parce que je me suis dit, avant de filmer,
faut
sentir.
Ouais, faut prendre le
coup. Et où est-ce que vous pouviez effectivement sentir cette inquiétude? Eh bien, dans les rangs, si je puis dire, des sénateurs et des députés, mais dans les coulisses, dans les couloirs. Et là, ça bavardait. Comment allons-nous pouvoir, sans donner l'impression que nous nous faisons une désunion, alerté sur la question des libertés individuelles. Et vous saviez tout de suite que dans les jours qui allaient venir, il allait y avoir un certain nombre de questions et même de gages qui allaient être demandés.
Justement, pour votre question, Thomas, vous en avez une.
J'avais deux questions, dont une dont vous avez plus ou moins répondu. Vous êtes journaliste, Johan, mais vous êtes également à la tête d'une école de formation à l'art oratoire, Ypsilon. Les mots ont un sens. Quels ont été le poids des mots choisis par Bernard Cazeneuve, mais également le président? Et ma seconde question portera sur la communauté du renseignement.
Oui.
Vous avez suivi les attentats du 7 janvier 2015. Comment a-t-elle évolué? Est-ce que le retour d'expérience du 7 janvier ont servi la cause du 13 novembre?
Deux questions, donc deux réponses. La première, est-ce que vous m'en voulez si je vous dis que le choix des mots et la communication a été aux antipodes de celle qui est faite aujourd'hui par un président de la République qui dit que nous sommes en guerre contre un ennemi qui, lui, n'a pas beaucoup d'intelligence ennemie, il existe tout simplement, ce virus, si vous voulez. Et j'ai l'impression qu'on ne parle pas du tout de la même chose, si vous voulez, et qu'il y a suffisamment de guerres comme cela pour ne pas s'en rajouter. Donc, j'ai trouvé qu'il y a une mobilisation sanitaire, bien sûr, mais nous ne sommes pas du tout dans l'effet de sidération que peut procurer un ennemi qui se balade partout et qui essaie de s'adapter à nos faiblesses pour ensuite, si vous voulez, essayer d'avoir notre peau. Donc c'est pas la même chose. Et nous avions, alors que la situation était bien pire, si je puis dire, puisque c'était la folie humaine dont il s'agissait, avec tout ce que cela représente pour nous, vous aviez un Bernard Cazeneuve qui avait un ton extrêmement apaisé, extrêmement précis, qui essayait de parler du courage dont faisaient montre les forces de l'ordre, etc., qui essayait de rendre hommage en permanence à chacune et à chacun, et qui appelait à la mobilisation générale des esprits, pas à l'anesthésie générale. Et c'est là où on a l'impression d'être aux antipodes. Alors, je veux pas critiquer ce qui se passe en ce moment, parce que je n'ai aucune envie d'être... Non, bien sûr, mais un petit peu d'impertinence ne nuit pas, et surtout, elle permet ensuite, quand on fait un compliment, qu'il paraisse beaucoup plus sincère. Et en vérité, je n'aimerais pas être à la place ni d'Emmanuel Macron, ni du gouvernement en ce moment, parce que cette situation est d'une complexité redoutable, et personne n'a de solution miracle. Ce qu'il faut juste pas, c'est amplifier les phénomènes quand ils sont déjà suffisamment compliqués à gérer. Et c'est ce qu'a fait Bernard Cazeneuve.
Donc à l'époque, Cazeneuve, lui, il est...
une précision du langage, c'est ce qu'on appelle un langage républicain. Ce n'est pas quelqu'un qui joue à la guerre, c'est quelqu'un qui devait faire la guerre, voyez-vous. Et c'est quand on connaît le poids et le prix de la guerre qu'on sait qu'il ne faut pas y jouer et qu'il ne vaut mieux pas l'invoquer. Deuxième question qui était la vôtre, c'était celle effectivement du renseignement territorial. Effectivement, il y avait un retard considérable à rattraper. Et ça a été finalement l'héritage du ministère d'abord de Manuel Valls, qu'il a ensuite laissé à Bernard Cazeneuve. C'était celui, effectivement, de la fusion en 2008 DRG et de la DST, qui a donné la DCRI, et qui a complètement...
Et la DGSI, encore, maintenant.
Absolument, qui maintenant est la DGSI, et qui a complètement désorganisé le renseignement de terrain. C'est-à-dire que les RG et la DST n'avaient pas du tout la même manière de travailler. Le contre-espionnage, la DST, c'était pas du tout la même chose que le renseignement général. Le contre-espionnage, on essaie de se faire discret, de se faire oublier, tandis que le renseignement général, on essaie au contraire d'avoir le plus d'informations possibles, d'être le plus en connexion possible. Et donc fusionner deux corps qui n'avaient pas du tout l'habitude de travailler ensemble et surtout pas de la même manière a complètement désorganisé, si vous voulez, le système. Ce qui fait que, et c'est ce que, là ce n'est pas moi qui le dis, moi je ne fais que rapporter les propos des personnes au sein du ministère, qu'il n'y avait plus de visibilité, de cartographie du territoire. Et en vérité, à partir du moment, après Mohamed Merah en 2012 et à partir surtout de 2014, il y a eu une réorganisation, notamment avec l'apparition du SCRT, Service Central de Renseignement Territorial, où là, enfin, les renseignements territoriaux ont pu refaire ce maillage territorial qui leur permettait d'avoir une visibilité, une cartographie précise finalement de ce qui se passait sur les différents territoires, et c'était ce qu'il fallait, le renseignement.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est que des gens ont échappé à ce qu'on appelle le spectre, au spectre du renseignement. Et on n'a peut-être pas vu
les signaux faibles.
Ouais,
le problème, il est sur les signaux faibles, si vous voulez, c'est ce que notre film
oui, un jeune délinquant avec un couteau est un signal faible, puisqu'on ne sait pas qui va passer à l'action.
Bien sûr, et puis il y a toute cette connexion avec ceux qui aident, ceux qui sont pas forcément radicalisés, mais qui sont en connexion avec. Et tous ces signaux faibles n'étaient plus détectables. Seuls les signaux forts l'étaient. Et c'était ça le problème.
Thomas.
Oui, j'avais une autre question. Au XIXe siècle, il y a un auteur qui s'appelle Gustave Le Bon qui écrit sur la psychologie des foules. Vous avez tourné votre reportage qui s'appelle « L'intérieur au cœur de la crise ». Quelle est la psychologie d'un ministre? Quelle est la psychologie de ses collaborateurs? Et quelle est la psychologie des représentants des différentes directions du renseignement?
À ce moment-là.
Eh bien,
dans un état
de crise. Attentat,
de crise, exactement.
C'est très intéressant ce que vous dites, parce que vous me parlez du premier documentaire, celui que nous avons fait au moment de Charlie Hebdo, qui était effectivement l'intérieur au cœur des crises. Et c'est très intéressant parce que avant même qu'il y ait l'attentat de Charlie Hebdo, il y avait donc des menaces. Nous étions menacés régulièrement par des vidéos, par des dépêches, hein, qui menaçaient, qui ciblait la France régulièrement, de la part de Daesh, etc. Et effectivement, le conseiller en communication de Cazeneuve avait réussi à mettre en place finalement un mot qui voulait, une phrase qui voulait tout dire, c'était l'anti-rejégiquel de 1976, la France n'a pas peur.
C'est ça.
Et toute la communication de Bernard Cazeneuve consistait à dire la France n'a pas peur. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire bien sûr que nous sommes saisis d'effroi. C'est d'ailleurs ce que dit le soir même, au moment du Bataclan, François Hollande. Il y a de quoi avoir peur, il y a l'effroi, mais face à cela, il y a une nation qui sait se défendre. C'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir peur individuellement, mais collectivement, nous sommes armés et nous sommes mobilisés. C'est ce qui s'est passé en vérité. Une image raconte juste ça, et après je m'arrête là car je suis bavard, mais c'est vrai que revivre cela.
Bon, sérieux, en vous invitant, c'est normal, mais c'est bien pour nos auditeurs, c'est parfait. Hein. Vous nous racontez de près. Hein.
Et par exemple, pendant les attentats de Charlie Hebdo, vous aviez tout le cabinet de Bernard Cazeneuve qui avait fait cette minute de silence dans la cour du ministère de l'Intérieur, et c'est le moment où tout le monde a craqué, où vous voyez des gens qui pleuraient, hein, des gens que vous avez pourtant vus en action extrêmement fort, et qui pleuraient. Et ensuite, le personnage, la fonction, redonne tout à coup cette énergie qui est nécessaire. Et j'ai envie de dire ce qui le résume le mieux, c'était effectivement l'intervention de François Hollande au mois de novembre, où au début vous sentez qu'il retient sa respiration, qu'il a des trémolos dans la voix, mais petit à petit, plus il explique que la nation sait se défendre, et plus il redevient un chef, effectivement, pour tout le monde. Et ça, c'est extrêmement fort, psychologiquement parlant, effectivement.
Les jours qui vont suivre l'attentat du 13 novembre, comment vous allez faire votre métier de journaliste? Comment vous allez continuer à tourner? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des équipes, hein, les preneurs de son, les cadreurs? Comment vous travaillez?
D'abord, la première des choses qu'on a voulu se dire, enfin qu'on s'est dite avec Serge Moati, c'était « nous n'allons pas juger, nous allons essayer de comprendre ». C'est-à-dire que nous avons voulu filmer l'état d'urgence, la mise en place de cet état d'urgence. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Quelles vont en être les limites? Et puis surtout, comment est-ce que chacune et chacun, tous ces hommes et ces femmes, bien sûr, au sein du ministère de l'Intérieur, vont réussir à se réapproprier quelque chose qui n'avait pas été utilisé depuis si longtemps et dans de telles proportions? Et donc, nous allions, avec notre caméra, essayer de suivre un petit peu la mise en place progressive de cet état d'urgence et surtout la façon dont les uns et les autres allaient se familiariser avec cela. Donc, nous avons porté un regard bienveillant. Notre objectif, c'était de comprendre et de rassurer. Et comment est-ce qu'on rassure? Pas avec des incantations et des phrases toutes faites. On rassure en démontrant, en prouvant, en montrant ce qui a échoué. Il y a eu des erreurs, il y a eu des dérapages, mais il y a eu un ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui à chaque dérapage s'emparait du sujet, recadrait, reposait effectivement les conditions de cet état d'urgence.
Jean-Luc, une dernière question et on se quitte.
Alors, vous qui êtes un homme d'image et un homme de parole, est-ce que vous avez une image particulière qui vous reste de ces moments?
Très rapidement.
Elle n'est pas joyeuse et j'ai pas du tout envie de prendre nos auditeurs en otage.
Surtout du côté des responsabilités et des acteurs.
Oui, les responsabilités, c'est cet entretien que j'ai eu avec Jean-Michel Fauvergue. Qui était le patron du RAID à l'époque, avant d'être député La République En Marche, et qui, au moment du... pas du Grenelle de l'environnement, pardon, de la COP21, se confier, et face caméra, j'ai décidé de ne pas montrer ce moment parce que justement nous ne voulions pas participer de cette espèce de dimension pathos du documentaire, que nous ne voulions pas que nous soyons pris en otage émotionnellement, mais qui nous disait effectivement, écoutez, l'image la plus terrible qui me reste en tête, ce ne sont pas les corps que nous avons vus ce jour-là à terre, ce sont les sonneries de téléphone. C'est-à-dire toutes les familles qu'il y avait derrière. Et cette image qui nous émeut tous encore parce que nous sommes un certain nombre à l'avoir en tête, nous montre qu'effectivement, c'est parce que nous sommes saisis d'effroi qu'il nous faut une extrême vigilance et une très grande exigence républicaine pour ne pas céder à nos émotions les plus intuitives et les plus instinctives à ce moment-là, car sinon, si nous nous écoutions, nous serions dans une rage folle. Ce qu'il ne faut pas parce que la République est bien plus grande que cela.
Merci Yohann Gillet d'avoir participé à notre émission, une émission spéciale ce soir avec des témoignages très poignants. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Jean-Luc Cottard. Merci Thomas. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain, le mardi 8 décembre, toujours avec mes chroniqueurs. En attendant, vous pouvez réécouter notre émission en podcast sur notre site www.rcf.fr, émission des forces et des hommes. Et je dédie cette émission ce soir à mon pote plastique de la BRI Paris. Il se reconnaîtra. Je vous souhaite d'excellents moments sur RCF. Prenez soin de vous. Au revoir.